Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et solidaires à Marseille et sa région et qui enregistre semaine après semaine cette émission avec La Forêt des Possibles qui est un écosystème de redirection écologique qui invite chacun et chacune à donner à trouver sa juste place dans une société écologique. Et donc, nous donnons la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et des solidarités de la ville de Marseille qui viennent témoigner de leur cheminement, de leur parcours, de leur projet et de la façon dont ils et elles transforment la société à leur place. Je suis Marin, ce soir, en régie, nous avons Claire et Gilliane qui s'occupent autant du mieux qu'ils peuvent de cette régie. Et ce soir, notre invitée, c'est Nadia. Bonsoir Nadia.
Bonsoir.
Où tu vas nous parler des laveries sociales que tu mènes avec le CHRS ARS de Marseille. Et donc pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu le plan de notre émission, notre enjeu c'est de vous inviter, vous auditeurs, auditrices, à trouver votre juste place dans une société où on puisse vivre dignement aujourd'hui et demain. Et donc à la fois sur des questions de justice sociale comme par rapport aux grandes limites planétaires. Et ce qu'on propose comme parcours de cheminement, c'est de pouvoir d'un côté se plonger dans le parcours des personnes que nous recevons qui témoignent des questions qu'elles se sont posées, des cheminements qu'ils ont parcourus, qui peuvent être celles et ceux que vous avez vous, que vous rencontrez, vous dire que de toute façon c'est foutu, ou alors se demander qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle. Ensuite, l'enjeu c'est de pouvoir présenter les projets qui existent, et ce soir on parlera des laveries solidaires, et ensuite de voir comment est-ce que ces projets, à leur échelle, transforment la société, et surtout qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'ils sont connectés les uns avec les autres, et que, un, on peut aller vite, mais à plusieurs, on peut aller plus loin. Et c'est un peu tout l'enjeu que cette forêt des possibles, que de pouvoir montrer que ces projets se tissent, et qu'ils arrivent vraiment à proposer des chemins de résilience, et de propositions dignes pour les habitants et habitantes de cette ville. Et donc on va commencer tout de suite, Nadia, où ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu puisses un petit peu présenter ton parcours.
Très bien. Alors, merci pour cette invitation. Alors, pour commencer, donc, je m'appelle Nadia Oumi, je suis éducatrice au CHRS de l'Arse et référente de la laverie sociale depuis bientôt 4 ans en janvier. Avant ça, j'ai eu un parcours universitaire en droit que j'ai arrêté à la licence pour effectivement me tourner vers du social puisque j'ai regardé un film, j'ai vu le film Police qui m'a fortement plu et je connaissais pas du tout le métier, donc je me suis renseignée, je suis allée voir une conseillère d'orientation et j'ai fait un service civique en parallèle de mes études qui m'a permis de pouvoir découvrir le métier et travailler dans un foyer d'adolescentes. Et puis étant donné que l'expérience m'avait fortement plu, j'ai décidé de tenter les concours puisque avant la réforme avec Parcoursup, l'entrée en formation était sur concours avec un écrit et un oral. Donc voilà, j'ai pu venir à Marseille puisque je suis à la base strasbourgeoise. Et puis effectivement, j'avais une volonté de découvrir le parcours des femmes autour de la migration. Donc j'ai vraiment choisi Marseille pour ça. Et voilà, après avoir fait ma formation sur 3 ans en continu, j'ai effectivement eu une expérience en maison d'enfants. Toujours avec des adolescentes et puis j'ai voulu donc changer de public et découvrir la mixité et effectivement j'étais intriguée et hyper contente de pouvoir aussi être à l'origine d'un projet qui allait se développer comme celui de la laverie sociale. Donc voilà, on l'a mis en place avec mon ancien chef de service, monsieur Victor Rémy. Et puis voilà, au fil des années, on a pu faire en sorte que ce lieu soit ressource. Et année après année, effectivement, le public évolue. Les ateliers qu'on essaye de mettre en place trouvent un petit peu leur sens avec le profil qu'on rencontre au niveau de la laverie. Et voilà, globalement, mon petit parcours avant d'arriver sur le CHRS. Voilà.
Et alors, est-ce que tu avais une aspiration au cœur depuis très longtemps, ou est-ce que finalement ça s'est fait un peu de fil en aiguille avec des parcours de vie qui t'ont amené là ?
Oui, alors j'ai toujours voulu travailler entre justement la justice, le droit et le social. Et puis effectivement, j'ai trouvé que autour du métier d'éducateur spécialisé, on retrouvait un petit peu tout ça, puisqu'il y avait vraiment ce lien avec la justice qu'on pouvait trouver surtout et un peu malheureusement avec le public jeune. Et effectivement, le lien et le quotidien avec l'autre, où je trouvais que ça permettait de pouvoir encore être un tremplin qui permettait de trouver peut-être chez l'autre cette passerelle qui permet de s'appuyer pour à un moment donné pouvoir rediriger un petit peu sa vie. Donc voilà, j'ai tenté l'expérience et ça m'a directement plu, ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Donc voilà.
Et est-ce que c'est la notion un peu du sens qui t'a touché? Parce que là, moi, je rebondis directement par rapport à ce que tu dis. Moi aussi, j'ai fait des études de droit, où j'ai été jusqu'en Master 2 de droit public à la Sorbonne. C'était très intéressant. Je vois à quel point ça m'a permis de structurer une pensée et même de pouvoir animer ces émissions. Mais il y avait quelque chose de très désincarné. Et moi aussi, j'ai fait un service civique. Alors, je ne suis pas devenu éducateur spécialisé, mais j'ai quand même travaillé avec un centre social à Félix Piat. Et en fait, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien, moi, d'aider, parce que je trouvais qu'il y avait de la chaleur humaine, de sentir immédiatement utile. Et je n'étais pas le donneur de leçons, apporteur de je ne sais pas trop quoi. Juste, c'était un moment, enfin des moments partagés avec des choses à s'apprendre les uns les autres. Et voilà, je voulais savoir si toi aussi, tu avais été marqué par cette question-là.
Ah oui, je te rejoins parfaitement parce que effectivement, je trouve que c'est un métier hyper riche et c'est vraiment le contact avec l'autre qui te permet d'évoluer. On part vraiment du principe qu'on n'est pas omniscient, que c'est aussi ce qu'ils vont nous dire qui va nous permettre de pouvoir aiguiller notre accompagnement. Il y a vraiment un gros travail aussi de réseau et de partenariat qui va se mettre en place avec tout le collectif associatif, que ce soit beaucoup au niveau des juristes, mais aussi justement sur toutes les questions d'urgence qu'on peut traiter au niveau de la laverie. Et c'est vraiment uniquement et en grande partie au travers des échanges qu'on peut avoir avec cette population qui se veut très large, qu'on arrive aussi petit à petit à dessiner et à modéliser un petit peu notre profession qui véritablement trouve un sens direct. Donc c'est vrai que moi j'aime dire que par rapport à d'autres professions, on n'est vraiment pas sur une obligation de résultat, on essaye de mettre tout en place pour que la personne puisse s'en sortir. Donc on est là pour leur offrir un panel justement d'options qui leur permettraient de pouvoir justement ajuster leur parcours de vie. Et c'est ce qu'on explique souvent et régulièrement, justement par exemple avec les jeunes qu'on accompagne sur le CHRS, puisque c'est des prises en charge de 6 mois.
Justement, ouais. je vais en profiter. Là, on a présenté présenté ton parcours et donc je t'invite à... On a un peu teasé, on a parlé des éducateurs spécialisés, du CHRS, de la laverie. Ce que je te propose, c'est dans un premier temps expliquer ce que c'est que le CHRS et ce que c'est qu'un éducateur spécialisé. Et ensuite, on parlera de la laverie pour vraiment rentrer dans le fond de ce sujet-là.
Ok. Alors, le CHRS de l'Ars, donc c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui accompagne des jeunes entre 18 et 25 ans, un public mixte, et qu'on accompagne aussi bien sur de l'hébergement, donc avec des appartements mis à disposition sur du diffu ou du collectif, puisqu'on a deux appartements qu'on met à disposition avec du co-hébergement, donc 3 personnes à l'intérieur. Et la particularité donc de ce CHRS, c'est d'accompagner aussi des jeunes sur du milieu ouvert, donc on ne va pas accompagner sur de l'hébergement, mais qui viennent également pour être accompagnés au niveau global sur leur situation, mais sans ce cadre-là d'hébergement. Donc on ne va pas venir chez eux travailler la question de l'habitat, mais on va effectivement pouvoir proposer tout ce qui est ouverture de droit, orientation sur de l'hébergement ou du logement. On va travailler aussi les questions de la justice. On a un partenariat avec justement la prison des Baumettes. Donc il y a aussi cette réinsertion qu'on essaye de mettre en place peu importe le public qui peut être accompagné, donc avec des prises en charge de 6 mois qui sont renouvelables auprès de l'ADES, donc auprès de la préfecture. Et ça nous permet donc de faire un bilan régulier avec des jeunes qu'on accompagne pour savoir si effectivement ce qu'on peut proposer au niveau du CHRS leur convient ou pas, puisque comme je disais précédemment, effectivement, on accepte que ce soit aussi des jeunes pour qui ce qu'on peut proposer, ben, c'est pas le bon moment, ils en sont juste pas là, et donc on va effectivement leur exprimer le fait que le CHRS ben, restera ouvert effectivement s'ils ont l'âge ben, qui est prédéfini, puisqu'on a un budget par rapport à cette limite d'âge-là. Mais effectivement, c'est des personnes qui peuvent se présenter dans le cadre du milieu ouvert sur des permanences qu'on a tous les mardis après-midi. Et puis au niveau de l'hébergement, c'est avec la plateforme du SIAO qui recense donc toutes les personnes qui, effectivement, ont un besoin d'hébergement. Donc c'est-à-dire que quand une personne se présente et a besoin d'un hébergement, c'est pas nous qui allons décider directement si elle peut entrer sur des appartements qu'on a vacants, mais c'est bien cette plateforme-là qui est nationale, qui va nous orienter au niveau de l'ancienneté, puisque c'est le seul critère objectif qu'ils ont réussi à déterminer, si effectivement une personne peut entrer chez nous et du coup commencer à être accompagnée. Et ensuite, on a donc les personnes qu'on va rencontrer d'abord en préadmission. Il y a une psychologue sur le service aussi, où il y a un entretien qui se fera avec ces personnes-là. Et puis nous, en réunion d'équipe, le jeudi matin, on discute effectivement de cette prise en charge éventuelle. On va surtout mettre en avant effectivement la capacité qu'on va avoir en termes d'équipe à accompagner une personne, puisque effectivement ça reste du diffus par exemple sur les appartements, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur place et que les jeunes ne sont pas juste au-dessus de nous. Donc il y a aussi pas mal de questions qu'on va se poser sur la santé mentale, hein, puisque c'est effectivement une tranche d'âge où on s'en rend compte de plus en plus qu'il y a quand même différents troubles aussi à réussir à réguler, donc c'est quelque chose de compliqué. Donc on va voilà prendre le temps de l'élaboration, et en grande partie effectivement on reste quand même sur de l'accueil inconditionnel, donc on va commencer à accompagner ces personnes au niveau du CHRS de l'ARS, voilà. Et puis bah, l'équipe elle est composée de 5 éducateurs spécialisés, une maîtresse de maison, une secrétaire et une chef de service.
Et alors, est-ce que tu peux nous décrire très brièvement en quoi consiste le métier d'éducateur ou éducatrice spécialisée ?
Alors, c'est un terme assez technique, donc c'est pas nous, effectivement, qui sommes spécialisés, mais c'est l'institution dans laquelle on va travailler qui est spécialisée à un public prédéfini. Et là, par exemple, sur le CHRS, moi, c'est un CHRS jeune d'insertion, puisque vous avez aussi l'urgence, la stabilisation, donc on va pas travailler de la même manière. Et c'est vrai que l'éducateur, bah, il bricole beaucoup, surtout puisqu'on a quand même de moins en moins de budget pour pouvoir mettre en place les différentes actions qu'on essaye de mener. Et puis ça va être quelqu'un, comme je le disais, qui va permettre de tendre une main à un certain moment donné de la vie de l'autre, et puis présenter de manière la plus bienveillante possible les axes de parcours qui vont se présenter à lui, et ouvrir un peu le champ des possibles. Voilà, ça reste une personne ressource qui reste à côté d'eux et qui va pas faire pour l'autre, puisque ça reste quand même des jeunes majeurs qui prendront de toute manière leurs décisions, donc s'ils le veulent pas, ils le feront pas. Mais voilà, globalement c'est un peu ça le métier, ou en tout cas c'est le sens que j'en donne.
Ouvrir le champ des possibles, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans cette émission qui s'appelle La Forêt des Possibles, où le but c'est d'inviter chacun, chacune à trouver sa juste place, quel que soit son parcours, y compris quand le parcours est parmi les plus compliqués. C'est pour ça que ça nous semblait hyper important de pouvoir aussi t'inviter ce soir pour présenter cette trajectoire-là. Et en fait, tu as un projet assez particulier au sein du CHRS ARS de Marseille, c'est que tu t'occupes d'une laverie sociale. Et alors, j'aimerais bien que tu puisses un peu nous expliquer ce qui se passe dans cette laverie sociale.
Oui, alors effectivement, la Laverie, donc c'est une antenne rattachée au CHRS de Lars, qui donc ne se situe pas du tout au même endroit, qui est au boulevard de la Libération, au 149. Donc c'est un endroit qui est quand même assez clé, puisque sur le boulevard de la Libération, on a pas mal justement d'associations qui travaillent avec un public précaire. On a la bagagerie qui est plus bas, on a par exemple une friperie solidaire aussi. On a un magasin d'ordinateurs effectivement qui recycle et qui permet de redonner un peu une seconde vie. Et au niveau de la Laverie, effectivement, j'accueille donc des personnes de tout âge et de tout horizon au niveau des orientations qui ont à un moment donné besoin d'accéder à l'hygiène vestimentaire. Donc, comment est-ce que l'orientation se fait? Les partenaires, donc l'association, effectivement, il y a pas de limite aussi. Hein. On peut être sur de l'alimentaire tel que les Restos du Cœur. On peut être sur de l'addiction comme le Fil Rouge ou effectivement les Carudes. Ou on peut être sur les douches du SAMU social avec des salariés de la mairie ou des bénévoles qui vont venir me contacter, me présenter rapidement la situation et effectivement on prendra un rendez-vous donc directement avec la personne en présence d'un bon d'orientation, parce que ça me permet quand même de savoir que c'est cette personne qui a été orientée par le partenaire en question. Et on fournit effectivement la lessive s'il y a besoin, avec un partenariat aussi avec la Bulle Verte, donc c'est une lessive écolo. Et donc les personnes se présentent donc du mardi au vendredi sur rendez-vous avec la possibilité donc de payer 1 euro la machine à laver et 1 euro le cycle du sèche-linge, et de pouvoir effectivement se poser, puisque la Laverie reste aussi un café relais, donc le café est proposé gratuitement, une collation également. Et puis petit à petit, au niveau de la Laverie, j'ai essayé de l'animer, donc de mettre en place des ateliers, puisque je trouvais que ça restait aussi un moment où ces personnes pouvaient prendre soin d'eux, une petite parenthèse qui s'ouvrait à eux, puisqu'on avait les femmes qui... Toute la journée, par exemple, était sur différentes tâches ménagères et prenait le temps pendant que le linge tournait, le temps de souffler, le temps de pouvoir appeler leur famille qui était peut-être restée au pays, ou effectivement juste sympathiser avec la personne qui était assise autour d'elle. Et je trouvais ça juste intéressant de laisser un petit peu place à cette petite parenthèse que je trouvais intéressante et qui finalement, contrairement à ce que je pouvais faire le matin en étant éducatrice spécialisée, était beaucoup moins soumise à des injonctions assez paradoxales aussi qu'on peut avoir au niveau institutionnel, au niveau de l'État, sur toutes les démarches administratives, puisque ça reste un métier qui devient de plus en plus codifié et là, on prend le temps avec ces personnes-là de juste se poser, réellement se soucier de comment est-ce qu'ils vont à l'instant T, et puis de parler de toutes les choses dont ils ont envie. Donc voilà, et en fonction effectivement de ce qui peut être amené sur ces après-midi-là, moi, ça me permet de faire un lien justement avec le partenaire associatif qui m'a orienté cette personne-là, puisque généralement, ça reste quand même des sujets... de l'ordre de l'intime, hein, qu'on traite aussi autour du linge, mais pas que. Et ça me permet justement de pouvoir petit à petit, puisque je les vois quand même régulièrement, puisqu'ensuite les prises de rendez-vous se font directement avec moi, pouvoir traiter aussi de pas mal de choses. Donc voilà, j'essaye après de pouvoir mettre en place des ateliers que j'estime être en corrélation avec ce que je peux observer sur ces après-midi. L'a donné.
Donc c'est une façon de prendre soin de soi en restant propre, avec ses vêtements qui sont lavés régulièrement, mais également de prendre soin de ses relations, de prendre soin de sa santé mentale et de pouvoir avoir une personne de confiance à qui se confier. Est-ce que tu ressens que parfois ça peut être un prétexte, se dire j'ai juste besoin de parler, ou qu'il y en a qui sont un peu renfrognés, ou qu'il y a plein de trajectoires différentes?
Oui. Alors, effectivement, sur le profil des personnes que je peux voir arriver à la laverie, c'est très intéressant. Il a été très évolutif au fil des années. J'observe, par exemple, que au niveau des hommes, donc ça va être des hommes entre 40 et 50 ans globalement, qui vont venir, et le linge, c'est réellement un prétexte pour juste pouvoir se poser, discuter, trouver un café... effectivement pouvoir juste avoir un contact avec moi en me parlant de leur journée, de leur semaine, et vraiment qu'il y ait du linge qui tourne ou pas, ça va pas être effectivement leur préoccupation première, et c'est plutôt un prétexte. Alors que les femmes, effectivement, souvent ça a été planifié, elles ont quand même un planning assez chargé, puisque ça va être des femmes qui, le matin par exemple, vont se rendre à la cuisine du 101, puisqu'elles sont hébergées sur des hôtels 115 où la plupart du temps il n'y a pas de cuisine, donc ça va être des endroits où effectivement elles vont pouvoir apporter leurs denrées, cuisiner sur place ou non. Donc voilà, ça va être déjà pareil, des rendez-vous qui peuvent être pris. Ensuite, il y a les enfants effectivement à aller récupérer, puis le linge à porter au niveau de la laverie, puis ensuite leurs enfants à récupérer à l'école. Et puis pour ceux effectivement qui n'ont pas forcément d'habitat, ça va être de venir à la bagagerie pour déposer leur linge et pas l'avoir sur eux, effectivement, quand ils dormiront dans un lieu donné ou pas. Donc effectivement, c'est le linge, ça peut être un prétexte souvent pour certains, mais petit à petit ça va être aussi intéressant de voir comment entre eux les relations peuvent venir à se nouer, puisque par exemple ces femmes-là vont venir à me dire qu'en fait en dehors de ces temps-là, elles prennent pas le temps de discuter avec d'autres personnes. Donc effectivement, moi je vais faire en sorte, sur les prises de rendez-vous, de faire en sorte que les regards puissent se croiser, et que ça puisse être aussi un moment pour eux d'échange aussi, de bons procédés, puisqu'elles ont souvent le même parcours de vie, et c'est aussi au travers de ces après-midi là qu'elles vont découvrir effectivement un endroit pour, je sais pas, lors de la rentrée scolaire de leur enfant, aller trouver des fournitures moins chères, ou de trouver des tickets service dans des maisons de la solidarité, puisqu'il y a des assistantes sociales qui vont par exemple en délivrer sur la fin d'année ou en début d'année. Donc c'est vrai que moi c'est des choses dont je ne peux pas être forcément au courant, puisque à la base mon public quand même ça reste les jeunes, et c'est vrai que j'élargis aussi mon champ des compétences en accueillant ce public qui se veut effectivement plus âgé, et même très âgé, avec des personnes retraitées que je peux voir venir, puisque la retraite ne suffit plus. Donc c'est vrai qu'elles vont se retrouver à devoir bénéficier de certains dispositifs d'urgence comme celui-ci, et donc il y a pas mal de choses à traiter avec elle, puisque il y a vraiment cette notion justement de place qui n'était pas la leur pendant toutes ces années où elles ont pu travailler, cotiser. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de colère en eux, puisque c'est des personnes qui vont se retrouver à une place dite à un moment donné où en fait c'était pas du tout dans leur projection. Donc on va accueillir des personnes comme celle-ci, ou alors j'ai pu accueillir aussi les évacués sur la rue d'Aubagne, et là aussi on se rend compte que c'est des personnes qui peuvent tout perdre du jour au lendemain, et c'est vrai que la laverie, ça permet quand même d'avoir encore ce côté assez intimiste, et d'être peut-être sur des dispositifs moins qui traite avec une... comment dire, avec moins de population que des accueils de jour, avec une forte densité, où effectivement, peut-être, on prend plus le temps, puisqu'en fait, il y a tellement de personnes aussi, que justement, là, il y a une considération aussi de la personne qui peut se poser, et voilà, ça reste... Ça reste encore un esprit que j'arrive à maîtriser avec un flux du coup d'une dizaine de personnes par après-midi qui seul effectivement est encore gérable. Et puis le lien qui se fait avec le CHRS, c'est que y a des jeunes effectivement qui sont éloignés de l'emploi ou pour qui ça reste compliqué d'avoir une insertion professionnelle et à qui on permet sous une forme de remobilisation de venir travailler sur ces après-midi-là en étant indemnisé 6 euros de l'heure, de travailler autour des questions de l'accueil, justement de la tenue professionnelle, de la posture, mais aussi du sens qu'ils peuvent donner en étant justement au contact de l'autre et de réussir aussi à se distancier de leur parcours de vie et de leurs histoires en écoutant aussi celles des autres et puis de leur permettre de relativiser et pourquoi pas trouver aussi une vocation.
Et leur place.
Voilà, exactement.
Et ça, on en parlera juste après. Gillian, il me semble que tu avais une question.
Oui, c'est juste une question de précision. C'est une question de précision, mais je crois que tu as un petit peu répondu. C'était pour savoir combien de personnes fréquentaient la laverie sociale. Donc, tu as parlé d'une dizaine de personnes
voilà.
Par l'après-midi, mais c'est pour la...
À l'année, tu veux
par
ça.
Par mois ou à l'année ou...
Ouais. À l'année, on est autour de 250 à 300 personnes.
Quand même, oui. Donc, ce sont des personnes qui viennent régulièrement en plus, donc 250 personnes différentes.
Exactement.
Et alors, moi, en termes de questions, on parlera de la question de la place après, qui est quand même hyper intéressante. Là, ce qui est intéressant, enfin intéressant, je ne sais pas quels sont les bons termes à employer. Moi-même, juste, je le dis pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette émission, il se trouve qu'avec Gillian Mathieu qui vient de poser la question, on est en train d'animer des jeux avec le CHRS ARS autour d'un arbre de vie qui permet de nous inviter à nous poser en collectif un certain nombre de questions sur ma sève comme mon niveau de vie, mon écorce, c'est ce dont je me protège. Mon tronc, c'est ce qui me permet de vivre dignement. Et ça me met dans une situation que je trouve assez étonnante, pas forcément facile que d'être à la fois poser des questions et trouver qu'il y a des choses qui sont intéressantes, alors qu'on parle vraiment d'enjeux de base dans la dignité d'une personne. Et donc, je le précise pour celles et ceux qui m'écoutent. Et alors, la remarque que ça m'évoquait, c'est déjà de voir qu'il y avait des parcours qui sont extrêmement différents. On a entendu des hommes... jusqu'à 50 ans qui sont des grands marginaux, des femmes qui ont parfois des enfants qui peuvent être seules ou pas seules, des jeunes qui arrivent et qui s'extraient un peu de leur quotidien, quand bien même ils pourraient eux aussi être les bénéficiaires de cette laverie ou même qu'ils l'ont été et qui viennent à ce moment-là pour avoir cette remobilisation vers un travail qui permet de trouver une dignité car une place par le travail dans la société. Et puis des personnes âgées qui se retrouvent là et certaines qui se demandent comment c'est possible d'en être arrivé là. Et tu m'expliquais en préparant l'émission que, parce que rien ne doit être simple dans cette vie-là, qu'en plus, souvent, il y a des multitudes de propositions et que ce n'est pas aux mêmes endroits. Et donc, la bagagerie, et puis le frigo, et puis le lieu de vie, et puis, je ne sais pas, les éducateurs, etc. C'est dans des lieux qui sont différents et qui peuvent rendre les choses plus complexes aussi.
Exactement, donc effectivement ça reste très chronophage pour eux et ça reste très épuisant puisque en plus souvent ça peut être des personnes qui parlent pas très bien le français, qui ont du mal aussi à se repérer puisqu'ils viennent d'arriver. Donc c'est vrai que nous on les oriente sur tous ces dispositifs là mais qui sont pas forcément recensés au même endroit, donc dans l'idéal effectivement à l'instar de la cité radieuse ce serait parfait de pouvoir mettre en place tous les dispositif un petit peu d'urgence, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose dont on a déjà pu parler effectivement au niveau associatif avec le directeur général de l'association, ou effectivement de pouvoir mettre en partenariat une crèche pour ces mères qui viennent et qui n'ont pas la possibilité de laisser leur enfant dans la journée puisque n'ayant pas de titre et de droit ça reste quand même même compliqué aussi pour elles. Donc avant de pouvoir scolariser leur enfant, elles se retrouvent quand même quotidiennement avec leurs enfants. Donc c'est vrai que quand on s'adapte au niveau de la laverie, c'est un petit peu le cas. Donc pendant les entretiens d'avoir les enfants, on essaye justement avec les jeunes en remobilisation de permettre aux mamans de pouvoir avoir un moment avec moi et de pas être toujours interrompues par leurs enfants. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à traiter et petit à petit, ça reste des projets qu'on aimerait mettre en place. Donc effectivement, récemment, on a fait une inauguration aussi d'un frigo solidaire devant la laverie. Donc c'est un projet qui permettrait et qui devrait permettre aux personnes en situation de précarité, mais qui vivent même complètement dans la rue, de pouvoir ouvrir ce frigo. Se servir librement et de pouvoir être alimenté aussi par le commerçant, le voisin, le tout venant qui est en capacité de pouvoir y mettre des denrées pour que la personne, de manière continue, sans être gênée par le fait de pouvoir demander une autorisation à moi ou à quiconque, d'ouvrir simplement ce frigo, de se servir et de pouvoir s'alimenter. Puisque ça reste quand même des besoins primaires qui sont de plus en plus difficiles effectivement à remplir, puisque je le vois effectivement avec des personnes qui peuvent être orientées par les Restos du Cœur par exemple et qui ont des colis alimentaires de plus en plus réduits puisque on est aussi face à une crise de l'inflation. Enfin, il y a pas mal de sujets qui peuvent venir à être travaillés et qui mettent en lumière toutes les problématiques de société. Donc c'est vrai qu'il y a une belle solidarité qui se met en place au niveau de la laverie, puisqu'on reste quand même sur de l'entraide et ce qui peut se passer, par exemple, entre eux, en découvrant effectivement qu'ils ont le même parcours de vie. Mais il y a aussi pas mal de choses qui vont être mis en place, par exemple avec un lieu ressource où ils peuvent apprendre effectivement la langue française avec des cours de FLE, ou effectivement trouver des colis alimentaires parce que il va y avoir des besoins pour ces mamans aussi au niveau de toutes les des problématiques aussi de jeunes enfants. Donc voilà, ça reste assez varié, mais c'est un public hyper enrichissant.
Et c'est dense et c'est un peu difficile pour moi là de reprendre la main juste là, d'autant plus que on va prendre le temps un peu de souffler de ce témoignage très dense que tu nous as témoigné, et je te laisse nous présenter la musique qu'on va écouter ce soir et qui n'est quand même pas anodine vu son titre, nous dire pourquoi tu as choisi cette musique là au regard de toutes les problématiques que nous abordons depuis le début de l'émission.
Oui, alors du coup, j'ai choisi La vie en rose d'Edith Piaf, puisque je trouvais qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui revient aussi beaucoup pour essayer de nuancer et de relativiser par rapport au parcours de vie qu'on peut effectivement entendre, que ce soit sur le CHRS ou au niveau de la laverie de l'ARS, puisque ça reste des personnes qui effectivement ont une profonde humilité aussi dans leur discours et pour continuer effectivement de juste tenir bon et effectivement avoir une béquille, que ce soit au travers de dispositifs comme la laverie sociale qui peut exister ou comme plein d'autres qui peuvent exister avec des personnes qui prennent le temps, petit à petit ça reste des personnes qui sont juste contents d'avoir un sourire en retour et qui sont aussi heureux finalement de découvrir qu'il y a des personnes qui comptent encore et qui veillent un petit peu sur eux le temps d'une période donnée, puisque c'est ce que je leur dis effectivement le jour où je les reverrai plus, c'est qu'ils ont juste plus besoin de la laverie sociale, et puis c'est ce que je leur souhaite. Donc voilà.
Merci Nadia, et on se retrouve juste après la pause sur Radio Galère pour la suite de cette émission de La Forêt des Possibles. A tout de suite.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui
vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4. Je ne l'ai pas précisé lors de la présentation. Cette émission est en direct de 19h à 20h et vous pouvez la retrouver en rediffusion demain entre 9h et 10h ainsi que en podcast sur radiogalère.fr quand vous cherchez Ecoforum ou sur Deezer et Spotify si vous cherchez La Forêt des Possibles, puisque c'est un partenariat entre Ecoforum et La Forêt des Possibles. Nous avons toujours pour cette deuxième partie d'émission Nadia qui est venue nous présenter la laverie sociale qu'elle tient avec le CHRS ARS de Marseille. Et dans cette première partie d'émission, Nadia, ce que tu nous as fait, c'est que tu nous as présenté ton parcours et puis ensuite tu nous as présenté le fonctionnement de cette laverie, les personnes qui s'y rendaient, les raisons pour lesquelles elles s'y rendaient, le fait que ce travail était un petit peu différent de celui d'un éducateur ou une éducatrice spécialisée qui est dans un hébergement de jour ou qui est dans d'autres dispositifs qui sont plus, j'imagine, avec plus de chiffres, où on doit te demander des comptes de façon plus rigide. Et là, ce que nous avons décidé de faire avec Claire, qui est dans le studio avec moi en cette deuxième partie d'émission.
Oui, je viens de revenir après mon petit stage en régie avec Gillian.
C'est de pouvoir parler de plusieurs sujets, qui sont des sujets, on dit du moi au nous et du nous au tout dans notre émission. Et donc là, maintenant, de parler de questions de société. Et là, on va aborder des questions qui sont un peu la place au monde. On a parlé de ces personnes qui se disaient c'est pas ma place, c'est pas comme ça que j'ai vécu ma vie, que je l'ai construite. Et pourtant, je me retrouve ici avec parfois des sentiments de déclassement. J'imagine que ça doit être très différent d'une personne à une autre. Pour nous, dans cette forêt des possibles, c'est notre philosophie que d'inviter les auditeurs, les auditrices à trouver leur juste place. Donc on a tous et toutes une place, mais parfois elle ne nous convient pas. Et l'être à sa juste place, c'est pas juste être dans un endroit qui nous convient, c'est pas juste être dans un bon logement, c'est pas juste être dans un bon travail, c'est pas juste d'avoir des bons amis, c'est pas juste d'avoir un bon salaire, c'est pas juste d'avoir une bonne santé mentale, c'est un ensemble de plein de choses qui implique qu'on se sent là où on devrait être, et donc quelque chose que l'on a choisi, au moins que l'on accepte, et non pas que l'on subit. Et j'aimerais que tu puisses un peu développer le regard que tu portes sur ces questions-là, et puis probablement aussi les retours et les témoignages que tu dois recevoir.
Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, effectivement, de recevoir de manière quotidienne ce type de discours, puisque la difficulté aussi, c'est qu'on se sent rapidement pris à partie, puisqu'on est face à des personnes qui ont déjà pu travailler, pour qui, effectivement, ça reste quand même une sécurité première, qu'est l'emploi ou le logement qui vient à disparaître. Donc, finalement, on sait très bien qu'on aurait pu être à leur place en ayant moins de ressources humaines ou financières. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, puisque de trouver les bonnes réponses et effectivement une écoute qui reste ouverte sans être sur quelque chose de moralisateur, c'est assez difficile. Mais c'est vrai que c'est des personnes qui veulent aussi juste prendre le temps de pouvoir exposer un petit peu leur situation, mais sans forcément attendre de solutions miracles aussi, donc heureusement. Mais effectivement, on est, j'ai l'impression, de plus en plus confronté à cette frustration-là, puisque on se retrouve face à des personnes qui ont de moins en moins la capacité d'accéder à du logement, puisque tout est complet, puisque les ressources aussi qu'on va leur demander sont de plus en plus draconiennes. Donc on se trouve aussi facilement démunis, en se disant que effectivement c'est des personnes qui ont pas forcément choisi cette place-là, et puis dans l'imaginaire de beaucoup, c'est des personnes qui finalement, si elles font la manche ou si elles se retrouvent un petit peu dans ces situations-là, c'est qu'elles l'ont voulu, alors que pas du tout. Et puis on se rend compte que c'est des personnes qui, effectivement, suite à une séparation, suite à la perte d'un emploi, se retrouvent en vivant dans leur voiture ou en étant à droite à gauche, et perdent un petit peu beaucoup l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on essaye un petit peu de revaloriser autour d'un café et d'activités qui peuvent être un petit peu basiques, mais qui prennent beaucoup de sens et de place pour eux.
Oui, et puis tu me parlais en préparant cette émission de certaines femmes qui ont parfois des enfants, qui ont parfois des maris ou pas d'ailleurs, des conjoints ou pas, et qui peuvent subir une bonne partie de leur journée à courir à droite à gauche, et entre les différents emplois, retourner à l'école, et puis surtout s'il n'y a pas un logement stable derrière, avec tout ce que ça peut impliquer d'une énorme difficulté, et d'autant plus après s'il y a tout un circuit à activer dans la ville pour aller chercher un certain nombre d'aides qui sont dans des endroits diffus. Venir à la Laverie, c'est un moment où on se ressaisit le temps d'un instant au moins. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas la dignité à côté, parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter là-dedans, mais un moment qu'on décide pour soi, un moment où on dit là, je choisis ce moment, je prends soin de moi, je décide de me faire du bien, et donc de me revaloriser dans ce que ça peut impliquer de ma santé physique, mais aussi de l'image que je peux avoir de moi-même, des relations que je peux tisser avec les autres, du regard que les autres peuvent porter sur moi. J'imagine que ça doit être très fort aussi.
Ah oui, effectivement, ça reste des témoignages poignants, et c'est aussi au travers des parcours de vie que, par exemple, là, ça fait un an que j'ai mis en place avec une socio-esthéticienne des ateliers une fois par mois qui leur permet de pouvoir vraiment prendre le temps de finalement se poser autour d'un soin du visage, des mains, d'une mise mise en beauté, par exemple, pour travailler sur effectivement une insertion professionnelle à venir. Et ça reste accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et je pense que c'est ces petites parenthèses-là qui permettent aussi de pouvoir créer du lien, leur faire comprendre que leurs demandes à un moment donné sont entendues et qui restent peut-être très anodines pour beaucoup, mais effectivement, juste prendre ce temps-là, cette considération-là en fonction des désirs de chacun, finalement, prend beaucoup de sens autour de la laverie. Voilà.
Et la question de la juste place, elle est, on va dire, intime de soi par rapport à soi, mais elle s'inscrit aussi dans le regard et le rapport aux autres. Et parmi les choses qui sont importantes dans les travaux que tu mènes, c'est de pouvoir organiser des rencontres en mixité ou en interculturalité, pour reprendre les mots que tu m'as donnés en préparant cette émission, avec donc des personnes qui ont des trajectoires, des parcours, des expériences, des ressentis qui sont différents, qui partagent, qui permettent un peu de se décentrer de son propre parcours à soi, ou au contraire de se sentir moins seul, ou de faire des partages d'expériences plus ou moins bonnes ou moins bonnes. Je te laisse rebondir sur ça.
Exactement. Effectivement, le fait de pouvoir coordonner sur la prise de rendez-vous, ça permet justement de jongler un petit peu sur les profils de certaines personnes et de cibler effectivement en fonction des pays d'origine, de la langue effectivement qu'ils vont maîtriser ou bien moins, ou les enfants qui ont le même âge que certaines femmes qui peuvent être orientées au niveau de la laverie. C'est de pouvoir aussi leur permettre de se rencontrer, de se réunir et effectivement de se sentir aussi moins seul, puisque finalement la précarité, on sait pour beaucoup que ça rend les personnes finalement assez invisibles et là elles trouvent aussi de la considération, que ce soit au travers de l'attention que je vais leur apporter, mais aussi qu'ils vont s'apporter mutuellement. Donc ça reste un lieu ressource, un rendez-vous qui est pris entre eux et finalement c'est un lieu agréable où chacun va prendre la considération juste de cet espace-là, qui permet effectivement une belle bienveillance et une solidarité qui va se mettre en place et qui permet de pérenniser aussi ce projet-là.
Et moi, je me demandais justement, pour ce qui est de trouver sa place dans la société, il y a notamment se sentir utile, le sentiment d'utilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ? Comment se positionnent les personnes qui viennent dans la laverie sociale ? Est-ce qu'elles ont ce besoin de se sentir utile ? Peut-être justement quand elles se rencontrent les unes les autres, elles peuvent s'entraider, donc il y a ce sentiment d'être utile. Toi, tu travailles dans le social qui plus est, donc tu connais très bien ce sentiment et cette motivation qui prend aux tripes. Donc j'imagine que c'est quelque chose qu'ils doivent ressentir également.
Oui, énormément. Et puis c'est intéressant puisque, par exemple, la laverie, elle est accessible à 1 € symbolique et la plupart, effectivement, ne peuvent pas venir à me déposer 1 € sur la table. Mais par contre, ils vont effectivement parvenir à le justifier. Mais quand ils ne peuvent pas, ils vont réussir à apporter des choses qu'ils ont pu trouver, effectivement, en venant à la laverie, ou en essayant de troquer contre autre chose et de venir apporter aussi une contribution. Donc c'est vraiment de garder une certaine estime d'eux-mêmes, de pas se sentir dévalorisé et vraiment apporter sa contribution aussi, se sentir utile, puisqu'effectivement ils ont l'impression qu'en contribuant d'une certaine manière, si effectivement elle n'est pas financière, la laverie elle va prendre fin. Donc c'est vrai qu'ils essayent aussi de pouvoir participer. Et puis il y en a certains, c'est marrant parce qu'ils vont me donner un pourboire en pensant que ça va être directement reversé. On parle de 20 centimes, mais pour eux, c'est déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là qui prend toute sa place. C'est vraiment de beaux échanges qui se mettent en place autour de la laverie. On est vraiment sur quelque chose de la légèreté. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien parce que même si effectivement ils sont tous animés d'un parcours qui reste quand même assez poignant et avec une forme de résilience qui nous toucherait tous, ils arrivent à prendre le pli et ce pas de côté, il est véritablement fait. Donc c'est très honorable aussi.
La notion de pas de côté, c'est une notion qu'on aborde très souvent en matière de transition écologique, de dire voilà, on est dans une certaine trajectoire et là on fait un pas de côté. Sauf que quand on parle des trajectoires où on fait des pas de côté en matière de transition écologique, c'est généralement parce qu'on dépasse les limites planétaires, que notre mode de vie dépasse les 2 tonnes qu'on devrait avoir le droit d'émettre maximum en termes de CO2 par an si on veut respecter les accords de Paris. Là, on parle à des personnes qui ont un mode de vie qui, par principe, enfin, par la manière même dont elles le vivent, fait que elles le respectent les accords de Paris très, très largement. Et j'aimerais qu'on puisse un peu aborder cette question-là parce que c'est une émission qui se dit écologiste. Et souvent, l'écologie, ça peut être perçu de façon un peu caricaturale comme uniquement manger des graines et faire des stand-up pour dire on est contre telle chose ou on veut tous faire du vélo. Alors que l'environnement, littéralement, c'est ce qui nous environne, c'est ce qu'il y a autour de nous. Et de souhaiter se battre pour un environnement digne, c'est que ce qui nous environne nous permette de vivre dignement, aujourd'hui et maintenant. C'est ça cet enjeu-là. Quand on commence à comprendre ce que ça implique, on voit bien que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et là, on est vraiment en train de parler d'une écologie populaire, d'une façon d'être au monde où là, c'est rikiki dans les usages. J'aimerais faire un témoignage avec Gillian. On anime des ateliers au CHRS ARS. Il y a une personne, peut-être qu'elle écoutera, qui s'appelle Soumeya, qui a des remarques qui sont souvent assez bluffantes, d'une lecture avec pleine de poésie, pleine de philosophie, pleine de profondeur sur la société dans laquelle nous vivons, pleine de lucidité aussi, sans aucun faux semblant, sans aveuglement et voire même avec beaucoup plus de lucidité que certaines personnes qui vivent dans des conditions qui ont beaucoup plus de moyens mais qui ne se posent pas peut-être toutes les questions qu'elle a été amenée à se poser. J'aimerais savoir si toi aussi tu as parfois ces témoignages poignants qui mériteraient d'être portés plus haut dans nos oreilles parce que ils sont pleins d'une vérité forte.
Oui. J'ai l'impression qu'effectivement, toutes les après-midi, je vais entendre des témoignages de vie qui effectivement viennent à faire écho sur effectivement la société, sur la colère qui va les animer, qui vont les animer. Et c'est vrai que c'est difficile de rebondir, mais voilà, ça reste effectivement toujours des récits qui se disent très facilement puisque ça reste quand même des personnes qui sont je trouve hyper accessibles que ce soit sur le CHRS avec les jeunes qu'on peut rencontrer ou au niveau de la laverie qui ont vraiment cette facilité d'aller vers qui est assez remarquable puisque on se doute quand même bien du fait qu'ils ont pu rencontrer différents travailleurs sociaux à qui ils ont dû relater leur parcours de vie. Et c'est vrai que il y a toujours cette forme de transparence, de lucidité et effectivement d'humilité aussi au travers de leur parcours de vie qui est très varié. Et c'est vrai que je ne m'ennuie jamais à la laverie pendant ces après-midi-là.
Moi, je serais très curieuse de connaître quel est leur niveau de préoccupation face aux enjeux écologiques, la crise climatique. Évidemment, ce ne sont pas ceux qui vont se mettre à manger bio et à essayer de réduire leur viande, puisque peut-être que de base, ils n'en mangent pas beaucoup. Mais voilà, quel est leur degré de préoccupation face à tout ce qui se passe?
C'est vrai que ça peut être effectivement des sujets qu'on va aborder au niveau de la laverie, puisque là, par exemple, on va mettre en place aussi un atelier d'écriture où, effectivement, ça va être des thématiques qui vont être abordées autour de la liberté, la nature, effectivement, l'écologie. Et c'est vrai que c'est super intéressant puisqu'ils ont beaucoup à redire et c'est vrai que c'est un moment aussi où ils vont essayer de transformer un petit peu le monde et ils aiment j'aimerais effectivement avoir aussi une plus grande place, puisque ça reste aussi des personnes qui effectivement ne peuvent pas aller voter, n'ont pas effectivement la possibilité d'aller travailler, puisque effectivement en étant un petit peu en marge de la société et sans permis un petit peu de conduire au niveau de la vie globale, puisqu'ils n'ont pas de titre, c'est vrai que ils sont assez frustrés aussi de ne pas pouvoir se mettre en place différentes actions. Mais c'est vrai que comme sur le CHRS, avec un conseil de la vie sociale, on essaye aussi de pouvoir représenter cette voie-là au travers, par exemple, de représentants qui, à un moment donné, vont pouvoir porter le discours du collectif et avoir une action un petit peu plus citoyenne. Et on espère, en voyant effectivement peut-être des actions directes entre leurs propos et l'intention qu'ils aimeraient donner au niveau de la société, mise en place assez directement.
Ça fait un peu écho avec ce qu'on essaie de développer, de inviter chacun, chacune à prendre sa juste place. C'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé ce soir, et de partir des questions les plus personnelles vers des questions collectives, et des questions collectives vers les questions de territoire, et des questions de territoire vers les questions de société, et se rendre compte qu'en fait elles sont toutes reliées les unes avec les autres, et que même si les questions sociétales peuvent nous paraître hyper lointaines, parce que soit géographiquement loin, soit parce qu'on peut se sentir marginal, en fait on est toutes et tous un petit bout de ce système-là, et donc on a toutes et tous, même si c'est rikiki, quelque chose à faire, et tous ces petits colibris sont en mesure de pouvoir transformer la société, parce qu'on fait tous quelque chose. On pourrait encore en parler pendant des heures, et là il est 57 et il faut qu'on laisse l'antenne pour les suivantes. Merci beaucoup Nadia, il me semble que tu avais une dernière chose que tu voulais nous partager juste avant de rendre cette antenne.
Effectivement, je voulais faire part de la gazette qu'on a mis en place au niveau de l'association, donc ça s'appelle Ars Actu, et c'est vrai que c'est une gazette qu'on essaye de publier de manière trimestrielle et qui permet aussi au niveau de chaque service de venir à relater un petit peu ce qui s'y passe, donc à mettre en lumière des parcours de vie, des témoignages ou alors ce qui peut se passer sur ces après-midi-là. Donc je trouvais que c'était aussi un outil qui pouvait être intéressant pour mettre en lumière la place de chacun et comment est-ce qu'ils essayent de transformer un petit peu tout ça.
Merci beaucoup Nadia qui est venue nous présenter les travaux que tu mènes quotidiennement à la laverie sociale, peut-être juste l'adresse.
Le 149 boulevard de la Libération dans le premier arrondissement.
Voilà, avec le CHRS ARS de Marseille. Je remercie Claire pour sa deuxième émission avec nous.
Merci et merci Nadia pour ton témoignage, c'était super intéressant.
Merci à Gilliane qui s'est occupée de la régie et sans qui ça ne serait pas possible ce soir que d'avoir cette émission.
Merci à vous.
À Sidi qui s'occupe de cette radio. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de démocratie ouverte et on rend vite l'antenne parce qu'il y a des personnes qui nous suivent juste après. Bonne soirée et à bientôt.
Bonne soirée, merci.